Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé, bien-être en direct du lundi au vendredi de 15h à 16h. Alors comme tous les jours, dès 15h, je suis bien accompagnée dans ce studio, il va prendre soin de nous tous, c'est le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie, bonjour à tous.
Au sommaire aujourd'hui, d'abord notre grand dossier du jour dans lequel nous allons prendre soin de la prostate. Un petit organe masculin dont on ose peu parler, alors tout doucement, pour effrayer personne surtout. Eh bien nous, on va en parler haut et fort et plus particulièrement de l'adénome de la prostate. Une prostate trop grosse, un homme sur deux de plus de 50 ans est concerné avec des conséquences variables dans son quotidien. Alors par quoi est-ce provoqué? Quand faut-il consulter? Et surtout, comment ça se soigne? Nous allons tout vous expliquer avec le professeur François Desgrandchamps, chef du service d'urologie à l'hôpital Saint-Louis à Paris. Ensuite, une petite nouveauté, ce sera tous les vendredis, la chronique Bien chez soi. On s'immisce un peu dans vos maisons, vos appartements pour prendre encore davantage soin de vous. Aujourd'hui, on va vous expliquer quand et comment bien aérer votre intérieur et pas uniquement à cause du Covid. Enfin, vers 15h50, nous retrouverons la chronique sexo de Catherine Blanc. Aujourd'hui, elle répondra à une jeune femme très inquiète à cause d'une longue période d'abstinence sexuelle.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1.
Tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et donc, on va démarrer par cette question d'une auditrice qui ne nous a pas laissé son nom, mais on va l'écouter quand même.
Moi, j'ai des extrasystoles dans mon cœur. Il y a longtemps qu'il me fait ça. Je suis essoufflée quand je monte les escaliers, j'en ai sûr. Mais les extrasystoles, le cœur fait tac, 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 puis hop, il s'arrête. Et j'ai l'impression qu'il ne va pas repartir. Tout d'un coup, il me fait un gros coup, il repart. Donc, je voulais savoir si c'était grave. Merci beaucoup.
Alors, Jimmy, les extrasystoles, parce que je crois que c'est comme ça plutôt qu'il faut le prononcer. Déjà, de quoi on parle?
Alors, tout d'abord, il faut bien comprendre que le cœur, normalement, bat de façon régulière entre 60 et 100 par minute. Sans extrasystole, alors ils peuvent être plus ou moins rapides, mais il est toujours régulier et voilà ce que ça donne en temps normal.
Plutôt simple. Là, il va bien. Hein.
Là, il va bien. L'extrasystole, c'est un nom barbare pour dire un truc très simple. Extra, c'est en plus. Systole, c'est un battement. C'est donc des battements du cœur supplémentaires qui vont être perçus par le patient et qui parfois vont être un peu dérangeantes. On écoute.
Ah oui, effectivement, c'est pas tout à fait régulier voilà. Là pour le
et
coup.
Et ce petit battement supplémentaire, eh bien vous pouvez le ressentir, ça peut être gênant, d'autant plus que lorsqu'ils sont répétés, soutenus, prolongés, eh bien le patient va avoir l'impression de faire comme s'il faisait un petit malaise, alors que dans l'immense majorité des cas, c'est tout à fait bénin.
Est-ce que c'est quelque chose de fréquent et est-ce que c'est grave, puisqu'elle nous pose cette question-là?
C'est extrêmement fréquent et plus on vieillit, plus on a des extrasystoles. Pour autant, on ne les sent pas tous. Si on s'amusait à faire des enregistrements de cœur de personnes de plus de 80 ans, eh bien on se rendrait compte qu'elles en font plus de centaines, voire des milliers tous les jours, sans même le savoir. Ce qui peut être dérangeant, c'est que l'extrasystole peut provenir de deux endroits. Le premier, c'est au niveau de l'auricule, les petites oreillettes du cœur. En général, ça pose aucun problème. Mais vous pouvez avoir des extrasystoles qui viennent du ventricule. On appelle ça des extrasystoles ventriculaires. Mmh. Et là, on sait que sur le long terme, s'il y en a beaucoup trop, ça peut fatiguer le cœur et aboutir à ce qu'on appelle une cardiopathie rythmique. Et donc, à ce moment-là, on a de l'insuffisance cardiaque et on se sent essoufflé. Mmh.
Et donc là, le problème, c'est que, vous le dites, hein, c'est quand ces extrasystoles, peut-être, elles sont trop fréquentes sur un cœur qui n'est pas en très bonne santé à la base. Elle les ressent, elle dit, hein, elle, eh bien, pour le coup. Oui.
Si elle les ressent, il faut qu'on fasse une investigation pour savoir est-ce que ça vient de l'oreillette ou du ventricule. Mmh. Et puis à ce moment-là, on donne des règles simples. La première chose, c'est de limiter les excitants.
Tu vas vous dire, qu'est-ce qui provoque ça finalement?
Ça peut être la fatigue, le stress, le surmenage, les excitants comme l'alcool, le thé ou le café ou même la cigarette. La fièvre peut donner des extrasystoles. Une thyroïde qui marche moins bien peut exciter le cœur. Et quand le patient a des symptômes, eh bien on peut donner des bêta-bloquants, c'est-à-dire des médicaments qui vont ralentir la fréquence cardiaque du cœur et soulager. Toujours est-il qu'il faut juste aller voir son médecin pour lui en parler.
Il faut consulter, surtout si on le ressent régulièrement. Jimmy, à présent, on va prendre une deuxième question pour vous, celle que nous a laissée Noël, qui nous interroge concernant son épouse. Écoutez bien.
Bonjour, je vous appelle au sujet de ma femme qui est éligible à la vaccination Covid. Malheureusement, avec sa pathologie, elle suit un traitement immunosuppresseur. Ni son médecin spécialiste, ni son médecin traitant ne lui indique un avis tranché là-dessus. Donc, on craint qu'elle ne puisse pas se faire vacciner. Qui pourrait nous donner un avis tranché et éclairé sur ce sujet ?
Jimmy, alors est-ce qu'on peut se faire vacciner quand on prend ce type de traitement, même si on n'a pas le détail? Parce qu'il dit, bon, un traitement immunosuppresseur, il y en a plusieurs, j'imagine.
C'est vrai que c'est un peu vague, ouais. Il y a plein de familles d'immunosuppresseurs. Néanmoins, ce qu'on peut dire, c'est que les personnes qui ont ce genre de traitement n'ont absolument aucune contre-indication à la vaccination avec le vaccin Pfizer ou Moderna, les vaccins à ARN. En revanche, dans ces cas-là, lorsqu'on a ces immunosuppresseurs, ça veut dire qu'on a une maladie auto-immune et on pense, d'après les études, qu'on ne peut pas vacciner pour l'instant avec AstraZeneca, qui n'a pas prouvé suffisamment d'efficacité, de
dans
tolérance
cette population-là, ouais.
dans cette population-là. Ça ne veut pas dire que ça ne marche pas, c'est-à-dire qu'on n'a pas suffisamment d'études. Néanmoins, si on interroge tous les spécialistes, ils recommandent la vaccination pour les personnes qui sont immunodéprimées ou qui reçoivent un traitement immunosuppresseur.
Alors j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui prennent des traitements médicaux, d'ailleurs, je ne sais pas, pour d'autres pathologies, pour un diabète, pour une maladie auto-immune, passons. J'imagine que c'est un peu au cas par cas. De toute façon, il y a un entretien médical avant la vaccination. Vous faites de la vaccination régulièrement.
Honnêtement, on a compliqué cet entretien médical. On a dit au docteur de faire ça. On n'a pas besoin d'un docteur pour dire est-ce que vous avez eu le Covid ou non, est-ce que vous êtes enceinte ou non. Je pense qu'on est en train de trop médicaliser un truc qui est hyper simple et qui sauve des vies. Donc effectivement, vous avez normalement une lettre d'éligibilité de votre médecin traitant ou du médecin référent qui vous dit que vous êtes peut-être à forme grave de coronavirus et que vous devez vous faire vacciner.
Oui, à risque, ouais.
Et puis il y a une liste de maladies orphelines, de maladies auto-immunes. Et lorsque le patient se présente et qu'il m'explique par exemple qu'il a un lupus qui est sous corticothérapie avec des immunosuppresseurs, et bien moi je regarde, lupus avec immunosuppresseurs, et bien c'est bon, vous êtes éligible à la vaccination. Donc on a une liste, en plus de l'ordonnance éventuelle du médecin. Tout ce qu'on peut vous dire, c'est que même si vous êtes immunodéprimé, vous pouvez vous faire vacciner.
Très bien, merci beaucoup Jimmy. Alors si vous aussi voulez nous laisser vos questions au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, surtout n'hésitez pas.
Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Très heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission Santé-Bien-être. Nous sommes ensemble, comme chaque jour, jusqu'à 16h. Alors accueillons tout de suite notre invité pour le dossier du jour. C'est vous, professeur François Desgrandchamps. Bonjour.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy.
Vous êtes chef du service d'urologie à l'hôpital Saint-Louis, à l'assistance publique hôpitaux de Paris. Et aujourd'hui avec vous, on va décortiquer avec délicatesse, bien sûr, cet organe, la prostate, petite glande encore un peu tabou d'ailleurs. Dès qu'on prononce son nom, franchement, on dirait que tous les hommes commencent à se rapetir comme ça dans leur siège, moi je trouve. On va reprendre du début justement, cette prostate, pour bien la comprendre, il faut savoir ce que c'est. C'est quoi alors?
C'est une glande très intime, puisqu'on ne peut pas la voir. Elle est à l'intérieur du corps, c'est une glande sexuelle, en fait, qui sert à la reproduction et uniquement chez l'homme. Et c'est sous la forme d'une grosse bille, à peu près de 2 à 3 cm de diamètre, perforée en son milieu, et elle se situe à la sortie de la vessie. Et donc l'urine passe au milieu, et les sécrétions sexuelles vont passer par le même canal qu'est l'urètre et sortir par la verge.
Non, dans la reproduction, elle ne sert à rien, ce n'est pas vital, quoi,
elle
je veux dire.
Elle ne sert qu'à la reproduction, donc quelquefois dans une vie.
Oui.
Et justement, à quoi ça sert dans la reproduction? Parce qu'on pense que sans prostate, pas spermatozoïde, on confond parfois le sperme, les spermatozoïdes. Est-ce que vous pouvez faire
absolument
un petit éclaircissement?
C'est qu'en fait, le sperme ne contient que 1% de spermatozoïdes qui sont formés par le testicule. Les vésicules séminales qui sécrètent un liquide nutritif, si vous voulez, pour les quelques instants qui séparent l'éjaculation de la fécondation, représentent 70%. Et la prostate, elle fait aussi du liquide, 20% de l'éjaculat, mais surtout, c'est en son sein, à l'intérieur de cette bille, que tout se mélange, les trois composantes, les spermatozoïdes qui viennent du testicule, le liquide qui vient des vésicules séminales et le liquide prostatique. Tout ça se mélange dans la prostate. La prostate se contracte.
Elle est musclée, je veux dire, il y a des muscles dans la prostate, c'est ça?
Un quart de la prostate, c'est un muscle qui se contracte un peu comme quand on exprime une éponge au moment de l'éjaculation. Les muscles de la prostate, avant l'éjaculation, les muscles se dilatent. Ça fait une petite cavité au centre de la bille où tous les trois composants du sperme se mélangent. Et puis, au moment de l'acmé, le muscle se contracte et le sperme sort.
Alors, on dirait un Thermomix ou un truc
comme ça. C'est un gros checker.
C'est un gros checker, la prostate.
Alors, checker, c'est ça.
En vieillissant, cette prostate, elle grossit. Vous avez dit tout à l'heure, au départ, elle fait quoi, 2 cm, c'est ça?
Enfin, elle
en
fait,
taille
oui,
normale,
ça,
on va dire, quand on est jeune, en tout cas. Mm-hmm. Et l'homme ne le ressent pas forcément, mais avec l'âge, elle va augmenter. Ça, c'est systématique, c'est obligatoire, je veux dire.
Chez tous les hommes, à partir d'une vingtaine d'années, la prostate se met à grossir.
Ah, déjà, à 20 ans, après 20 ans, ça grossit.
Après 20 ans, ça grossit. Et puis après, ça n'arrête pas de grossir. En fait, il y a une sorte de déterminisme dans la prostate, c'est-à-dire que la prostate est faite pour la reproduction. Et donc, après 50 ans, on ne se reproduit plus. En France, il y a 1% des naissances qui naissent d'un homme de plus de 50 ans. Mais la nature n'a pas prévu de savoir quoi faire de cette prostate après qu'elle n'en a plus besoin. Et donc, elle continue de grossir ou les cancers se forment. Donc, à partir de 50 ans, c'est là où la prostate devient anormale parce que rien n'était prévu pour la suite.
Mmh. Elle devient anormale, mais l'homme ne s'en rend pas forcément compte.
Non,
on ne sait pas qu'on a forcément une grosse prostate.
Jimmy, il a 30 ans passé, déjà, elle a grossi, quoi, c'est ça. Donc mais il n'a aucun symptôme, je veux dire, on ne sent rien.
Pas encore.
Mais il a dit à partir de 20 ans, donc vous êtes déjà passé dans le clan des grosses prostates.
Mais, si la prostate grossit, mais ne gêne pas le passage de l'urine, par exemple, personne ne le sait, et dans les cancers de la prostate, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui, c'est pareil. C'est les cancers se développent sur la partie très périphérique de cette bille, et donc ne gêne pas le passage des urines. C'est les symptômes urinaires qui alertent sur les maladies de la prostate.
Juste pour l'anecdote, la plus grosse prostate, il y a un record, hein, je crois. Ouais. Et ce n'est pas forcément quelqu'un qui était malade du tout, je crois.
Non, c'est un Barcelonais. Ouais. En fait, c'est un homme qui a une prostate de 4 kilos et qu'on lui a pas enlevé la prostate, simplement. C'est une grossesse quand même, 4 kilos.
4 kilos, oui, c'est
et
comme s'il avait un bébé.
Et le diagnostic, c'est adénome de la prostate, bénin.
Et donc,
l'homme,
on le laisse en place.
Il n'est pas gêné pour uriner et on laisse cette prostate.
4 kilos, ça fait un sacré poids quand même.
Mais d'ordinaire, quand même. D'ordinaire, une prostate qu'on opère, qu'on est amené à opérer, c'est entre 50 grammes et 150 grammes.
Oui.
Une prostate normale, c'est 10 grammes, 20 grammes.
Oui, donc là, 4 kilos, on est
et
dans un
quoi,
truc.
C'est quoi justement la plus grosse prostate que vous ayez opérée, que vous avez trouvée
C'est 250-300 grammes.
250-300. Je crois qu'on ne se rend pas bien compte ce que c'est que 250-300
grammes. C'est un steak haché, non? C'est un gros steak haché.
C'est comme les deux mains arrondies, comme ça.
C'est... Ah oui, c'est confortable.
Et alors, c'est cette prostate, quand l'homme vieillit, elle grossit et qu'elle s'occupe, vous l'avez dit, essentiellement du rôle de reproduction, le sperme, etc. Oui. Mais pourquoi finalement on ne l'enlèverait pas pour tout le monde? Et puis voilà, puis on n'a pas de problème. Si une fois qu'ils ont eu tout leur bébé, on l'enlève et puis c'est réglé.
C'est parce qu'il y a des conséquences. Les conséquences sont dues à la place de la prostate. Si elle était située sur le front, on pourrait l'enlever
comme un bouton. Hop.
Mais elle est située dans le fond de l'intime de l'homme, hein, puisque c'est entre la vessie et la
verge.
Ouais. Et donc, il peut y avoir des conséquences sur les urines après, des fuites d'urine, des conséquences sur les érections, parce que les nerfs de l'érection sont collés à la prostate pour aller vers la verge. Donc, elle est située dans un endroit qui rend l'exérèse difficile et à risque.
Alors rassurez-nous, c'est un problème d'homme, la prostate. Les femmes n'ont pas de prostate.
Alors, officiellement, non.
Ah, en fait, officiellement. Alors ça veut dire qu'officieusement, il y en a une.
Microscopiquement, il y a quelques cellules prostatiques autour de l'urètre. Parce qu'au début, hommes et femmes sont confondus. C'est
au stade embryonnaire.
Pendant l'embryogenèse qu'il y a une différenciation. Et donc, les femmes vont garder quelques cellules prostatiques, comme les hommes vont garder un petit vagin résiduel qui est justement au milieu de la prostate, une petite cavité qu'on appelle l'utricule prostatique, qui est sans aucune conséquence, et que l'on voit lorsque l'on passe à l'intérieur du canal de l'urètre, en endoscopie pour aller dans la vessie. On voit au milieu de la prostate l'entrée d'un tout petit tunnel qui fait un centimètre de profondeur. C'est un vestige.
Les hommes ont un vestige de vagin et nous donc un vestige de prostate, mais elle ne nous sert à rien, à nous les femmes, cette mini-prostate.
De même que le mini-vagin de l'homme ne sert à rien.
D'accord.
Excusez-moi. Et du coup, la prostate, on est d'accord que quand tout va bien, ben, on ne la sent strictement pas, en fait, hein, finalement.
Absolument.
C'est seulement quand on vient vous voir qu'on se rend compte qu'il y a des problèmes. Mais toute sa vie, on peut vivre sans aucun symptôme de grosse prostate.
Voilà. Et, comme l'a dit Mélanie, la prostate grossit au moins chez un homme sur deux après 50 ans. Et il n'y a que 20% des hommes qui ont une grosse prostate qui le savent parce que ça gêne le passage des urines. C'est ça le signal d'alerte.
Professeur Desgrandchamps, on va poursuivre cet entretien dans quelques minutes. Vous restez bien avec nous.
Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé, Bien-être, une émission sans rendez-vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Alors notre invité, il est toujours en studio avec nous, c'est vous professeur François Desgrandchamps. Je rappelle que vous êtes chef du service d'urologie à l'hôpital Saint-Louis, à l'assistance publique hôpitaux de Paris. Professeur, on va faire un point sur ce qu'est... On a fait le point sur ce qu'est réellement la prostate, sur son rôle, mais parfois, donc souvent même en vieillissant, eh bien, elle grossit cette prostate. C'est l'adénome. C'est juste vraiment une hypertrophie. Donc qu'est-ce qui grossit concrètement? La coque, la substance même de la prostate?
En fait, c'est toutes les composantes de la prostate. La prostate, c'est donc une glande sexuelle qui fabrique le sperme et qui le mélange, on l'a dit, le thermomixte de l'éjaculat. Et en fait, c'est fait donc de glandes et de tissus autour pour nourrir ces glandes et de muscles pour pouvoir chasser le sperme. Et donc, l'adénome de la prostate, c'est une augmentation de volume de ces trois composantes. Toutes les cellules sont normales. Il n'y a aucune cellule cancéreuse. C'est simplement une augmentation de volume de la glande en global.
Et pourquoi certaines prostates vont grossir plus que d'autres? Vous avez dit, on n'est pas tous égaux face à...
Le catalan de 4 kilos, on l'aura retenu.
Exactement,
ça, c'est vraiment étonnant.
Est-ce qu'il y aurait des facteurs
extérieurs
qui pourraient faire grossir la prostate?
Il y a des facteurs. Bon, tout d'abord, l'âge, puisqu'il n'y a pas de grosse prostate avant 50 ans. Mais il n'y a pas que ça. Il faut aussi avoir des testicules fonctionnels avant la puberté. Les hommes castrés avant la puberté pour des accidents ou de façon plus artistique du temps des castrats ne voient pas se développer leur prostate. Et puis, il y a des facteurs génétiques possibles. C'est troublant de voir que des jumeaux homozygotes, même à distance, c'était fait aux États-Unis, sur les côtes est et côtes ouest, ont plus de risques d'être opérés si leur jumeau a été opéré. Et ce n'est pas leur mode de vie, ce n'est pas juste parce qu'ils se sont dit « tu devrais aller voir ton urologue ». C'est comme ça, c'est qu'il y a
grosse
sans doute des facteurs génétiques. Il y a des facteurs génétiques qui ne sont pas bien définis, mais il y en a. Et puis enfin, il y a le mode de vie. et on pourra y revenir sur la prévention, c'est le sport, c'est la prise de poids qui retentit sur la taille de la prostate.
Plus on a un gros ventre, plus on a une grosse prostate en
c'est
général.
C'est mesuré, ouais, nous-mêmes on l'a mesuré. Ouais. Si vous prenez un mètre à ruban et vous mesurez le périmètre ombilical, c'est lié à la taille de la prostate.
Quand, ça donne une idée de la taille de la glande alors.
C'est ça.
C'est quand et c'est inéluctable, je veux dire, est-ce que tous les hommes, je sais pas, si on prenait tous les hommes de 90 ans qui ont regardé la taille de la prostate,
90% des hommes de 90 ans ont une grosse prostate.
Ouais, c'est
normal. Mais il y a encore une fois que 2 hommes sur 10 qui le savent parce qu'ils ont des signes.
Mmh. Et plus cette prostate est grosse, et plus le risque de cancer peut augmenter, ou ça n'a strictement aucun rapport ?
Ça n'a strictement aucun rapport, absolument aucun.
Pour autant, il faut quand même surveiller cette grosse prostate, ou finalement on peut la laisser tranquille ?
On surveille la grosse prostate pour elle-même, c'est-à-dire que la grosse prostate peut parfois, sans qu'il y ait trop de signes, abîmer la vessie. C'est pas fréquent, mais c'est à vérifier. Si on découvre une grosse prostate simple, bien homogène, sans aucun risque de cellules cancéreuses, on n'y touchera pas parce qu'elle est grosse. Le fait d'être grosse n'est pas une maladie. Par contre, quand on va faire un point pour sa prostate, l'urologue ou le médecin traitant
va regarder
la taille.
Ce qu'il faut faire après 50 ans régulièrement.
Oui, après 50 ans, la taille. Et puis, si à l'intérieur de cette grosse prostate, ou plus ou moins grosse, il y a des foyers de cancer ou pas.
Quel est le principal signe qui doit pousser à consulter pour une prostate trop grosse qui deviendrait préoccupante pour le coup ?
Le signe le plus précoce, c'est de se lever la nuit plus qu'une fois.
Pour faire pipi,
En France, pour faire pipi, oui. En France, 80% des hommes et des femmes de plus de 50 ans se lèvent une fois. Donc, on considère que 80%, c'est normal. À partir de 2 fois, ça doit être un signal d'alerte et on doit aller consulter pour savoir pourquoi on se lève 2 fois par nuit pour aller aux toilettes.
Alors ça, c'est le signe le plus précoce, mais à l'inverse, le signe le plus tardif, c'est aussi la rétention d'urine. Quand on n'arrive plus du tout à pisser, c'est un problème
absolument.
De la prostate.
Parce que comme cette bille qui est la prostate est creuse et que l'urine passe au milieu, quand la prostate grossit et qu'elle grossit un peu vers l'intérieur, elle coince le passage de l'urine. Et donc, elle peut coincer tellement que la vessie n'a plus assez de force pour pousser l'urine au travers. Et donc, les gens peuvent être bloqués.
Les gens sont bloqués, mais n'ont pas forcément des fuites urinaires, par contre, ces hommes-là.
Non, c'est encore une autre gamme de symptômes. C'est, les gens sont bloqués, ils sont obligés d'attendre et de pousser le jet F1. Et puis, il y a une autre façon d'avoir des symptômes prostatiques. C'est lorsque la vessie rentre en jeu. La vessie, elle sent qu'elle a du mal à se vider parce que la prostate bloque. Donc, elle s'hypertrophie un peu comme un culturiste. C'est un muscle un tout petit peu anormal, un peu réactif. Et donc, là, vous pouvez avoir des fuites parce que l'homme a une envie d'uriner tellement pressante qu'il ne peut pas se retenir.
Ah oui, d'accord.
Est-ce que sur le plan sexuel, on peut être embêté quand on a une grosse prostate ou ça n'a strictement aucun rapport ?
Alors, ça a plus de rapport qu'on croyait. Avant, on disait, comme on se lève la nuit, qu'on est tracassé, on ne pense plus à la gaudriole. En fait, il y a sans doute des mécanismes communs, c'est-à-dire que ce qu'on appelle le syndrome métabolique, qu'on voit dans d'autres maladies de l'organisme. Syndrome métabolique, c'est trop de graisse sur le ventre à partir de 50 ans qui bouleverse complètement toute l'économie du corps. C'est, le gras, c'est un organe qui sécrète des substances qui agissent à la fois sur la prostate, qui la fait grossir, et en même temps qui diminue les érections. Donc 50% des hommes qui ont des symptômes urinaires ont des érections et une vie sexuelle moins bonne qu'avant.
Bon, rentrons dans le vif du sujet. Quand ils viennent vous voir, ces hommes, en général, c'est pour une plainte avec des problèmes urinaires. C'est ce qui est le plus fréquent. Pour vérifier justement la taille de la prostate, eh bien le geste souvent redouté par les hommes, c'est le fameux toucher rectal. C'est l'examen de référence pour voir si elle est grosse, pas grosse.
C'est le débrouillage. Ouais. Après, il y a beaucoup d'examens de raffinement comme l'IRM et autres. Mais
ça, ça vous donne un bon...
C'est-à-dire que c'est anormal d'avoir une prostate normale si vous avez des symptômes urinaires. Donc, vous allez penser à autre chose et à d'autres diagnostics. Et puis, au toucher rectal, donc, pour revenir précisément, le toucher rectal permet de savoir quelle est la taille de la prostate, un peu comme un maquignon au doigt.
Décrivez-nous le geste, hein, parce que c'est vrai que les hommes qui ne l'ont pas eu, ça peut effrayer.
Il faut prévenir.
Oui, c'est mieux.
Et c'est exceptionnel que les hommes refusent.
Avec un doigt simplement
Doigt simplement que l'on glisse dans l'anus. En fait, au-dessus de la marge anale, on sent une petite voussure, c'est la prostate. Et donc, c'est souple. Si en poussant le doigt, on arrive jusqu'au-dessus de la prostate, globalement, elle fait moins de 50 grammes. Et puis si jamais on arrive à la palper mieux, elle fait... Jusqu'au haut de la prostate, elle fait plus de 50 grammes. Donc on sait quelle est sa taille, mais on sait aussi quelle est sa
consistance. Un peu,
ouais. C'est-à-dire qu'une prostate, c'est souple. C'est ferme, mais souple, doux. Alors qu'un cancer, c'est
vous
dur.
Vous la connaissez bien, ça se voit. Elle nous l'a décrit presque comme un truc magnifique.
Et justement, je suis le Giono de la prostate.
C'est ça. Et vous dites dans votre livre qu'il faut mieux 2 touchés rectaux qu'un seul. C'est-à-dire que si on va voir le médecin généraliste...
Ça, c'est drôle de dire ça, pourquoi ?
Parce que vous écrivez dans votre livre en fait, qu'il fallait qu'on va voir le médecin généraliste,
oui,
il faut confirmer ça avec un deuxième toucher rectal par justement un neurologue expert.
Je peux me permettre une petite blague belge, je sais que pour le deuxième avis... Non, pourquoi non ? C'est écouté en Belgique aussi, il faut faire attention. En principe, on fait le toucher rectal avec un seul doigt, donc avec l'index. Et donc l'idée, c'est d'avoir un deuxième avis directement en mettant 2 doigts d'un coup. Mais ça, c'est...
Très
je
bien.
Je pense pas qu'il faille le diffuser.
Donc, on est en direct, donc écoutez.
Le deuxième toucher rectal, oui, parce que en fait, c'est l'urologue qui est quand même le spécialiste. Le médecin généraliste peut avoir l'habitude, mais c'est pas si souvent. Nous, chaque patient qui vient sait qu'il va avoir un toucher rectal, s'y prépare et l'accepte. C'est plus difficile pour un médecin traitant de placer le toucher rectal dans la consultation.
Très bien, professeur Desgrandchamps. On va continuer cet entretien dans quelques minutes.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1.
Votre émission sans rendez-vous de retour très vite, juste après un peu de musique sur Europe 1. C'est le dernier titre d'Edith Depreto, Bateau Mouche.
Quand j'étais gars trop moche, chantant sur bateau mouche, avec un dans les poches, faisais moins la fine bouche. Je prenais toutes les avances de sourire pas très cash. Fallait bien que je mange pour apaiser ma soif. En triplet et dessert, je reculais l'attente. Des gros ventres à remplir avec chansons badantes. Sur mon estrade en top que je prenais pour scène, je me sentais comme un coq, mais je flottais que sur la scène. Maquillé au pinceau, un solo pour mariage, avec costume Célio et l'odeur du fromage. Je posais comme il faut et j'en menais pas large. Je me sentais parfois trop entre rêve et noyade. J'étais lui qu'on ne voit pas, qui se glisse entre les tables. J'entends du Rihanna avec un accent grave qui sourit à chaque fois pour faire plaisir mesdames. Faudrait pas que messieurs se sentent dragués par moi. Quand j'étais personne, plein de petits taffes d'automne, je rêvais d'idole, je me voyais déjà en haut. Quand j'avais personne, qu'une soif qui déborde, je rêvais des tonnes, je me voyais déjà en haut. Et c'était beau, début, 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 beau, début, début, début. Je découvrais Paris,
comme découvre l'étranger.
Qui vient d'où il fait gris,
où on laisse tout trop laid.
Les monuments crarés,
emportés comme jamais.
Je n'avais qu'une envie,
m'installer sur ce pavé,
à chanter toute ma vie.
Pas les chansons des autres,
j'en avais dans le vent.
Pas du saumon le nôtre,
j'attendais patiemment.
Monter sur le trône,
qu'on reprenne mes chansons.
Comme je reprends vie en rose.
Quand j'étais personne, plein de petits taffes d'automne, je rêvais d'idole, je me voyais déjà en haut. Quand j'avais personne, qu'une soif qui déborde, je rêvais des tonnes, je me voyais déjà en haut. Et c'était beau, début, 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 beau. Quitter mes Nike, les laisser sous le bateau. C'était pas assez classe pour l'image de ce show. Je n'avais qu'une hâte, leur montrer ce que je vaux, montrer combien je fake et j'entre le manalo. Le soir je m'improvisais la vedette du bateau, en maquillant mes souhaits au parfum du ghetto. Tous les soirs je trinquais, rêve fou de mon ego. En attendant je réglais mes grands rêves au chapeau. Quand j'étais personne, plein de petits taffes d'automne, je rêvais d'idole, je me voyais déjà en haut. Quand j'avais personne, qu'une soif qui déborde, je rêvais des tonnes, je me voyais déjà en haut. Et c'était beau, début, 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 beau. Quand j'étais gars trop moche, chantant sur bateau mouche, avec un dans les poches, faisais moins la fine bouche. Je prenais toutes les avances, de sourire pas très cash.
Touché.
Fallait bien que je mange. Pour
c'était, pardon, le chanteur Edith Depreto avec Bateau Mouche, son dernier titre.
Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy
Mohamed. Bon, bah cette fois, vous êtes sur Europe 1 dans son rendez-vous et nous accompagne toujours cet après-midi. C'est vous, professeur François Desgrandchamps. Je rappelle que vous êtes chef du service d'urologie à l'hôpital Saint-Louis à Paris. On parle de l'adénome de la prostate avec vous cet après-midi. Et donc déjà, on a dit qu'on passe au traitement, mais est-ce qu'il faut vraiment traiter tous les adénomes ?
On ne traite que les adénomes des hommes qui en ont besoin. C'est en fait des hommes qui ont des symptômes urinaires à cause de ça, qui se lèvent la nuit, qui ont un jet trop faible, qui peuvent avoir des petites fuites ou des envies très pressantes.
Mais si elle fait 4 kilos mais qu'on n'a pas de symptômes, on la garde.
On la laisse même si elle est grosse, si elle gêne personne.
Et si justement, si on veut la traiter, avant de donner des médicaments, est-ce qu'il y a des choses toutes simples que vous conseillez avant de prendre des médicaments ?
Oui, la base de la base, enfin ça dépend du patient, mais lorsque le patient est en surpoids, la base de la base, c'est l'activité physique et la perte de poids. Il y a une relation entre la taille de l'abdomen et la taille de la prostate. Et donc, quand l'homme va perdre du poids et faire une activité physique...
Elle va diminuer ?
On dit, elle va pas diminuer, mais il y aura moins de symptômes. On dit que quand on regarde plus de 10 heures la télé par semaine, on a beaucoup plus de risques d'avoir un adénome. À l'inverse, quand on marche 2 à 3 heures par semaine, on a deux fois moins de risques d'avoir un adénome. Donc, il faut se reprendre un peu en main, quoi. Perdre du poids et faire de la marche, faire de l'activité physique, ça améliorera les choses.
D'accord. Et donc, vous prescrivez ces conseils hygiéno-diététiques, on va dire, souvent combinés à des médicaments quand même. Quand il y a une gêne, hein, donc vous l'avez expliqué, il faut quand même qu'il y ait des symptômes pour qu'on décide de la traiter. Il y a plusieurs types de médicaments, grosso modo, 3 sortes à peu près, vous allez nous dire.
Oui.
C'est des médicaments, quel type de médicaments? Alors, peut-être les noms sont un peu compliqués, mais ils vont avoir quelle action?
Assez courant et bien toléré. Il y a les extraits de plantes, qu'on pourra voir en détail. Les médicaments qui relâchent le muscle prostatique, puisqu'on a dit qu'un quart du muscle, un quart de la prostate, c'est du muscle qui sert à faire sortir le sperme. Donc là, il y a 2 types, les alpha-bloquants, qui sont comme les médicaments anti-hypertenseurs qui relâchent le muscle des artères. Et puis, une nouvelle génération de, muscles qui relâchent, de médicaments qui relâchent le muscle, qui sont les analogues du Viagra, pour en reparler en détail.
Là, il y a une double action, c'est ça?
Il y a une double action sur la verge et sur la prostate. Et puis, donc, le troisième type de médicaments, c'est les médicaments qui font diminuer la taille de la prostate, qui ont un nom compliqué, qui sont les inhibiteurs de la 5-alpha-réductase.
Regardez, voilà, l'idée en tête, il y a un troisième type de médicaments.
Et donc, ces médicaments peuvent être prescrits aussi, mais on prescrit chaque médicaments en fonction du profil du malade. C'est vraiment des sur mesure, un traitement sur mesure.
Est-ce que c'est des traitements qui sont efficaces rapidement ou il faut une certaine inertie en se disant bon, on ne va pas soulager les symptômes tout de suite?
Alors, il y a pour deux catégories d'entre eux, les extraits de plantes et puis les médicaments qui relâchent les muscles, c'est assez rapide. Celui qui va diminuer la taille de la prostate va prendre du temps pour ça, va prendre 3 à 6 mois pour améliorer les symptômes.
Extrait de plante, du coup, c'est-à-dire que la phytothérapie peut marcher quand on a une prostate qui est un peu grosse?
Absolument, la phytothérapie marche même bien, et puis c'était le seul médicament disponible en médecine pendant des années et des années, jusqu'à il y a peut-être 25-30 ans.
Vous testez le prunier d'Afrique, je crois, en ce moment.
Oui, parce qu'il y a une très jolie hypothèse. Les extraits de plantes fonctionnent, ça marche, aussi bien que les autres médicaments, les hommes le disent, hein, mais on ne connaît pas le mécanisme d'action. Il est très compliqué, parce que quand vous faites l'analyse d'un extrait de plante, il y a 150-200 composants, donc c'est très compliqué de savoir quel est le principe actif. Donc jusqu'à présent, on ne savait pas. Et puis, depuis peu de temps, un dogme est tombé, c'est que jusqu'à pas longtemps, on pensait que les urines étaient stériles. En fait, les urines sont remplies de germes, mais microscopiques et à très faible quantité, ce qu'on appelle le microbiome, comme dans l'intestin, mais en quantité infinitésimale. Et donc, l'idée, c'est que le prunier d'Afrique, un extrait de plante, peut-être agir en modifiant l'écosystème urinaire. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que ce microbiome urinaire, il est différent chez les gens qui ont un adénome ou chez les gens qui ont un cancer. Et chez les femmes, c'est un microbiome qui peut être différent entre une femme qui a des symptômes parce qu'elle a une vessie très active et une vessie calme. Donc, on teste actuellement l'effet du prunier d'Afrique sur le microbiome urinaire.
Et vous avez parlé d'analogue du Viagra, donc ça veut dire qu'on va traiter deux problèmes à la fois.
C'est un des derniers médicaments sortis, absolument, parce que c'est le tadalafil à 5 mg. Le Viagra, en fait, au départ, c'était un antihypertenseur, c'est un relaxant des muscles des artères. Comme antihypertenseur, ça ne marchait pas bien, mais l'histoire, c'est que les hommes qui en prenaient pour leur tension disaient « la tension, peut-être ça ne marche pas, mais moi, je veux le garder parce que pour les érections, c'est quand même très bon. » Parce que ça relâche les muscles de la verge pour que l'érection soit entière et c'est dur. Il faut que les muscles soient relâchés pour que le sang puisse arriver dedans. Et donc, ce médicament, Tadalafil, un analogue du Viagra, qui a une durée d'action longue, donc on peut prendre un seul comprimé par jour, va agir en relaxant les muscles de la verge et en même temps en relaxant les muscles de la prostate. Quand on sait qu'un homme sur deux qui a des problèmes de prostate a des difficultés d'érection, c'est un traitement que l'on donne volontiers.
Alors professeur, il nous reste peu de temps, mais on va quand même parler du traitement, on va dire l'intervention chirurgicale. Il y a 2 sortes. On peut soit opérer, vous allez nous expliquer, gratter en fait cette prostate trop grosse, soit emboliser. C'est quoi le principe de l'un et de l'autre?
Alors le grattage, ça se comprend, c'est, vous voyez le canal du Midi, il y a un éboulement sur les berges et donc ça rétrécit le passage, vous faites passer une dragueuse et qui gratte les bords.
Petite dragueuse.
Toute petite parce qu'elle passe, oui, il faut rassurer les gens. Hein. Ça fait peut-être 5-6 mm de diamètre, on passe par le canal de la verge et avec une anse électrique, on va gratter les bords de la prostate pour l'élargir.
Et l'embolisation?
L'embolisation, c'est plus récent et c'est très intéressant parce qu'il n'y a pas d'opération, il n'y a même pas d'anesthésie, c'est une anesthésie locale du poignet où on passe un cathéter par l'artère radiale et par l'artère du poignet et on descend, on va boucher les artères de la prostate. La prostate a moins de flux sanguin, donc elle diminue un petit peu de taille. C'est une alternative intéressante.
Et les patients retrouvent une vie normale et une vie sexuelle aussi normale?
Après, alors, la vie sexuelle est perturbée par l'opération, par le grattage. Les érections sont inchangées, voire améliorées. L'orgasme est le même, mais l'éjaculation se fait en interne. comme c'est la prostate qui doit se contracter pour faire sortir le sperme, comme elle était grattée
par l'intérieur...
Mais ça ne
change rien au plaisir.
Ça ne change rien au plaisir, mais le sperme passera dans la vessie, on ne pourra plus avoir d'enfant.
Très bien. Professeur Desgrandchamps, merci beaucoup d'avoir accepté répondre
Mélanie,
à nos questions. Et puis pour ceux qui voudraient en savoir plus, je signale le livre que vous avez écrit sur le sujet. La prostate, on en parle, paru chez Hachette et désormais en livre de poche. Merci encore, professeur.
Merci.
Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Faites de votre logement un cocon où vous vous sentez bien, avec un air intérieur plus pur, plus propre. Le rendez-vous bien chez soi avec les purificateurs d'air Dyson.
Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h. À présent, notre nouvelle chronique, donc bien chez soi, tous les vendredis désormais avec le docteur Jimmy Mohamed. On va fouiller un peu chez vous, s'intéresser à votre hygiène domestique, aux ustensiles que vous utilisez pour cuisiner par exemple, et surtout vous guider pour faire un peu mieux. Car oui, tous ces petits gestes du quotidien peuvent avoir un impact sur notre santé sur le long terme. Aujourd'hui, on va parler de comment bien aérer son intérieur. Savez-vous à quel rythme il est conseillé de le faire? Quelle est la bonne durée? Et surtout, pour quelles raisons c'est important et pas qu'en période de Covid? Notre reporter Valentin Piovesan vous a interrogé sur ce sujet. On écoute tout de suite son micro-trottoir.
Alors là, c'est quotidien, c'est systématique, c'est tous les matins. Je me réveille, j'ouvre les volets déjà de ma chambre et j'ouvre la fenêtre. Pour moi, c'est primordial de changer d'air, hein, surtout après le sommeil.
Mais toujours, surtout le matin, après avoir dormi, il faut toujours aérer.
Il faut aérer 10 minutes toutes les 2 heures.
Après, c'est vrai que là, depuis la pandémie, on le fait un peu plus. Enfin, pour moi, c'est une question d'hygiène, quoi.
Je sais que moi, je le fais pas assez. Du coup, ma mère, souvent, elle me réprimande. Du coup, j'essaie quand même de le faire un maximum.
Au moins 2 fois par jour. Comme ça me permet déjà, moi, de prendre l'air.
Pour changer un peu avec le Covid et tout, surtout. Pas rester dans le même environnement pour faire partir les odeurs. Enfin, moi, j'ai pour habitude de beaucoup aérer l'endroit où je vis.
Comment on aère son espace de vie? Eh ben, on ouvre la fenêtre.
Enfin, il y a d'autres solutions, oui. Déjà, le recycleur d'air, je suis pas fan, mais je pense que vraiment, ouvrir la fenêtre, c'est juste un moyen de bien aérer de façon naturelle.
Alors Jimmy, aérer sa maison, son appartement, c'est un geste dont on parle beaucoup en ce moment à cause du Covid, mais en réalité, il faudrait le faire tout le temps, évidemment, tous les jours, c'est ça? On est d'accord? C'est le rythme? Combien de temps à chaque fois?
Eh oui, tous les jours, quelle que soit la saison. De temps en temps, en hiver, on a du mal à ouvrir les fenêtres. Oui, pour autant, on en a
la température quoi, de la maison. Hein,
exactement, on en a besoin en hiver, en été, au printemps ou en automne. 15 minutes tous les jours, c'est largement suffisant. Pas besoin de laisser ça pendant une ou deux heures, puisqu'à ce moment-là, vous allez faire changer votre température à l'intérieur et du coup, c'est moins agréable. 10 à 15 minutes sont largement suffisantes.
Très bien. Quel est le but précis d'ouvrir en grand ces fenêtres? Parce que bon, certains ont une VMC par exemple qui renouvelle plus ou moins bien l'air intérieur, mais ça suffit pas. Pourquoi il faut vraiment ouvrir en grand?
Et ça vous permet de renouveler l'air de façon beaucoup plus efficace. Vous allez éliminer des polluants domestiques comme des solvants, des produits d'entretien et priorité à la cuisine et à la salle de bain, puisque ça va être aussi des endroits où de la moisissure va se développer. Donc, il faut absolument renouveler l'air. Et puis, vous avez d'autres toxiques, comme la pollution liée au tabac. On ne fume pas tous dehors. Et puis, il y a aussi les odeurs, le dioxyde de carbone. Et puis, les pollens, les moisissures qui peuvent s'accumuler au fur et à mesure. Toutes ces bonnes raisons pour ouvrir vos fenêtres.
Est-ce qu'il y a un bon moment dans la journée pour le faire?
Oui,
moi, j'ai fait ça au réveil en général. Mais
Exactement. Alors, selon l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie, eh bien, il faut ouvrir ses fenêtres le matin très tôt et le soir très tard. Le matin très tôt, puisque c'est à ce moment-là que le pic de pollution est le moins important, et le soir aussi, puisque à ce moment-là, on sait que les pollens qui vont s'accumuler, notamment la journée, lorsque vous êtes allergique, eh bien, si vous ouvrez la fenêtre à 14h, eh bien, vous allez avoir tous ces pollens qui vont rentrer à la maison. Donc, c'est tôt le matin et tard le soir.
Très bien. Et on a compris, Jimmy, en cette période de Covid, c'est même devenu quasiment un geste barrière d'ouvrir les fenêtres. Donc, si on est chez soi parce qu'on a le Covid ou même qu'on a un cas contact, eh bien, il va falloir ouvrir peut-être même plus, là, pour le coup, plus souvent.
Plus vous êtes nombreux dans une pièce, plus elle est petite et plus il faudra aérer l'air. Si vous êtes seul dans
une
grande pièce.
Non, on sera plus sur une fois par jour. Hein,
exactement. C'est... Là, honnêtement, si vous avez un détecteur de dioxyde de carbone, on en reparlera dans une autre émission, eh bien, vous allez vous rendre compte que quasiment toutes les heures, il faudra ouvrir votre fenêtre durant 10 à 15 minutes. Si on se mettait dans des classes, on
toutes
se rendrait compte.
Toutes les heures, hein, oui.
Si on va dans des
pour
écoles.
Pour les télétravailleurs qui restent 4 heures, 5 heures devant leur ordinateur dans leur chambre, il faudrait ouvrir toutes les heures.
Alors, s'il est seul, c'est pas la peine, mais s'il y a du monde autour de lui, dont il pense qu'ils sont peut-être malades, eh bien, à ce moment-là, il faut renouveler l'air beaucoup plus que ça.
Bon, bientôt, il fera très bon pour aller ouvrir sur toi toute la journée. C'est encore mieux. Merci beaucoup, Jimmy, pour ses conseils et ses rappels, encore plus nécessaires dans la période actuelle.
Europe 1.
Dans un instant, la dernière partie de cette émission, vous êtes avec nous jusqu'à 16h et restez surtout car juste après, on se retrouve pour la chronique sexo de Catherine Blanc. A tout de suite sur Europe 1.
Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
La chronique sexo de Catherine Blanc, ce sera juste après un peu de musique. Je vous propose d'écouter Lily Allen, ça s'appelle Smile.
You're not girl next door. What'd you do that for?
Etienne sur Europe 1 avec son titre Smile qui était tiré de son premier album studio, l'album Steel, sorti en 2006.
Sans rendez-vous sur Europe 1.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1. Nous sommes avec vous depuis 15h. Toujours à mes côtés, évidemment, le docteur Jimmy Mohamed qui nous raterait cette séquence pour rien au monde, puisque c'est Catherine Blanc qui nous rejoint en studio comme tous les jours. Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Catherine, on va terminer la semaine avec une question de Mégane. 2 ans, dit-elle, que je suis célibataire et 2 ans que je n'ai pas refait l'amour. C'est à me demander si lorsque je vais recoucher avec un garçon, je vais avoir la sensation d'une première fois. Est-ce possible? Alors Catherine, pour démarrer, 2 ans sans faire l'amour, bon, c'est pas la fin. Enfin, c'est beaucoup, hein, mais c'est pas la fin du monde non plus. Faut pas qu'elle s'inquiète à ce point-là.
Bien sûr. Alors d'abord, il faudrait comprendre ce qu'elle veut dire par une première fois. Est-ce qu'elle parle d'une première fois? Il y a à chaque relation nouvelle, c'est une première fois, parce que sinon, ça voudrait dire qu'on ne rencontre pas un individu, on ne fait que poursuivre l'histoire créée avec un autre. Donc, on est bien d'accord que c'est à chaque relation une première fois.
Bien sûr.
Et ce sont 2 corps qui s'accordent, 2 corps qui arrivent avec leur richesse et les partagent pour construire une relation. Mais si sa question, c'est une première fois au sens de la difficulté physique, physiologique qu'elle a pu rencontrer, là, évidemment, il y a méprise, puisque le sexe féminin n'est pas une cicatrice.
Il ne se referme pas,
il ne se recolle pas, et il n'y a pas de défloration nouvelle, ce qui peut être dans le fantasme de certaines femmes, une inquiétude, un peu comme si on avait perdu la souplesse aussi, une idée que je suis toute raide et toute fermée, comme on aurait arrêté de faire du sport pendant 2 ans et après avoir fait...
On est rouillé un peu, et que donc
on n'y arriverait plus. Donc là, ce n'est que de l'ordre du fantasme, parce que dans la réalité, le corps...
C'est comme le vélo, ça
ne s'oublie pas. Je dirais c'est mieux encore, dans le sens où le corps est de toute façon fait pour cela, dans cette direction-là. Et ce ne sont que nos inquiétudes, ce sont que nos frilosités personnelles, nos inhibitions qui viennent... raidir nos corps et nos élans physiques, mais pas du tout le fait d'avoir arrêté pendant 2 ans ou pendant 10 ans.
Malgré tout, est-ce que les sensations après 2 ans d'abstinence, est-ce qu'elles peuvent être différentes, à la fois en mieux ou en moins bien? On imagine la première fois qu'on a mangé du chocolat, c'était super bon, et puis si on en mange tous les jours, on s'habitue, et si on n'en mange pas pendant très longtemps, on va se dire, finalement, le chocolat, c'était pas si mal.
Un peu d'alimentation, ça fait longtemps qu'on n'avait pas parlé de chocolat.
Oui, vous remplacez le chocolat parce que vous voulez.
D'accord,
vous avez compris
pizza.
Non, mais j'aime bien votre analogie parce que c'est vrai aussi, ça va dans le sens de la rassurer d'ailleurs, c'est aussi une occasion de redécouvrir combien c'était bon et combien c'est bien dommage de s'en être privé. Bon gré mal gré, et donc oui, que ce qui a été découvert et qui a été aimé ou qui a fait surprise pour soi peut être à nouveau l'occasion de retrouver des repères, des évidences extrêmement émouvantes et qui vont plutôt dans le sens effectivement du plaisir de retrouver une nouvelle première fois.
Donc peut-être lui conseiller d'y aller doucement, un petit carré de chocolat à la fois, c'est ça, pas tout d'un coup.
Bah, de toute façon, alors
j'ai essayé, mais c'était maladroit.
C'est bancal, là, mais...
Alors là, je ne sais pas.
Je voulais vous copier, Jimmy, vous êtes mon inspiration, mais là, j'ai pas réussi.
D'accord. En fait, je ne sais pas vraiment sur quel point il faudrait qu'elle aille tout doucement. C'est-à-dire qu'elle a une crainte. Si la crainte est inquiète, encore une fois, la peur d'avoir mal, peut-être parce qu'elle a un passif très douloureux sur le sujet, peut-être quand même, ce qu'il ne faudrait pas négliger, peut-être que c'était difficile. Souffre-t-elle de vaginisme historiquement?
Bien sûr,
et est-ce qu'elle craint justement de devoir refaire le chemin d'une ouverture difficile, mais qui n'est que fantasmatique encore une fois, et auquel cas il vaut mieux consulter? Sinon, qu'elle se rassure, il va sans dire qu'elle retrouvera très naturellement le chemin de l'amour.
Un petit aparté gastronomique, Jimmy?
Non, mais est-ce que du coup, on doit en parler au partenaire en disant, écoute, ça fait longtemps que j'ai pas eu de rapport sexuel, ou au contraire, est-ce qu'on risque pas d'envenimer les choses? Plus on en parle, plus on en fait une montagne. Donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on est honnête ou un petit mensonge comme ça? Ou une omission, c'est pas un mensonge.
Je pense que c'est à chacun de décider ce qu'il en est en fonction de sa personnalité. Il y a des gens qui se répandent volontiers sur leurs difficultés pour être accompagnés paisiblement, tout en bienveillance par leur partenaire. Mais du coup, ils se mettent aussi dans un cadre où ils sont à soigner en quelque sorte, et d'autres qui disent pas, et puis ils y
vont. Bien choisir
et puis...
le partenaire, ça peut être déjà quelqu'un de doux et gentil, enfin voilà, pour la prochaine fois, parce qu'elle dit 2 ans, pour l'instant apparemment il n'y a pas de partenaire à l'horizon. Hein.
Oui, ben voilà, et donc ça ne va pas se refermer encore plus, ça ne va pas devenir, donc c'est se donner le droit, peut-être encore une fois, qu'il n'y a pas de partenaire, pas par hasard. Si j'ai eu l'idée que ma sexualité était douloureuse, qu'il n'y a pas de partenaire et que j'ai l'impression que parce que ça fait longtemps que je n'ai pas fait l'amour, ça risque d'être douloureux, et peut-être qu'on peut supposer qu'il y a quand même quelque chose, ne serait-ce qu'inconsciemment, qui m'a fait mettre à l'écart les relations parce que peut-être je les crains. Et là, je vous conseille plutôt la consultation.
Merci beaucoup Catherine pour tous vos conseils précieux. Comme toujours, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, je vous souhaite un excellent week-end. Portez-vous bien.